Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Comment vous travaillez avec vos publics, entre guillemets, enfin, parce qu'évidemment, c'est pas uniforme. Il y a différents types de handicap, il y a différents niveaux de handicap. Au niveau des 10, j'imagine qu'il y a aussi des degrés différents. Vous faites quoi? Comment vous évaluez un peu pour. C'est un travail auprès de chacun, finalement
Oui, ben, je pense que c'est un peu pareil. Moi, c'est un travail d'observation, en fait. Hein. On fait beaucoup, beaucoup d'improvisation en début d'année. Ils adorent ça. Donc, je les observe, en fait, et je vois un petit peu leur capacité. En même temps, je pars du principe qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Parce que, enfin, c'est particulier, hein, les 10. On n'est pas dans du handicap moteur. Du coup, ils ont à peu près tous les mêmes capacités. La difficulté, ça va être le texte écrit, donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup, beaucoup de travail à l'oral. Alors au début, où j'ai monté ces ateliers, j'avais de façon très intellectuelle travaillé avec une psychomotricienne, créé des exercices en me disant je vais les faire progresser en même temps, tout ça. Bon, finalement, j'ai lâché, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas ce qu'ils me donnent. Et en fait, juste, voilà, je les observe, je les laisse être libres, être heureux, et surtout aussi dans le théâtre que je pratique avec eux. Ce que je disais, hein, je les écoute énormément, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire, ils ont besoin de vider leur sac. Et j'inclus en fait des parties autobiographiques dans les spectacles. Alors j'utilise des petites techniques comme la voix off, qui va leur permettre de dire ce qu'ils ont à dire sans avoir la pression du public, parce que c'est des choses un peu plus intimes, un peu plus profondes. Mais c'est nécessaire parce qu'ils n'ont pas l'occasion de dire leur souffrance ou leur colère ou leurs espoirs d'une autre manière, et d'être entendus et applaudis pour ça en plus. Et voilà, c'est des petites.
Je crois que vous avez des extraits.
Oui, si je peux vous faire écouter deux, trois textes. Alors, il y en a beaucoup plus, hein, j'en ai sélectionné là. Trois, c'est assez court, ça dure à peu près 1 minute chacun. Alors, le premier texte, c'est un jeune garçon qui est petit là, et qui explique ce qu'il aurait aimé voir à l'école, lui, et le fait qu'il est, qu'il, voilà, il est dyslexique. Bon, je vous laisse écouter.
Nino.
Pourquoi j'ai choisi la technique?
Ah oui,
pour
pardon.
La musique, le son.
Je précise une chose, chaque texte commence par rapport au personnage qu'il a dans la pièce. Donc là, dans la pièce, c'est un technicien.
Bon. Pourquoi j'ai choisi la technique? Pour la musique, le son. Dès mon enfance, la musique a pris une place importante dans ma vie. À travers elle, ce sont mes pensées les plus profondes qui se développent. Des pensées larges, philosophiques. Très jeune, je me suis interrogée sur l'argent. J'écoutais la musique et je pensais. Je pensais à tous ces gens qui galèrent, mes parents y compris. Je me rappelle de la période des gilets jaunes. C'était ma période rock'n'roll. Je rêvais de gratuité, de troc, d'échange, de maisons en porte ouverte, plus de vol. La musique m'a rendue très idéaliste. À travers elle, je rêvais d'un monde meilleur, d'une humanité baignant dans la joie, le bonheur. S'entendus ce sentiment à travers de la lecture. Moi, j'avais la phobie des livres. Faut dire que moi, j'étais dyslexique. Alors, c'est sûr, les livres me faisaient pas rêver. Au contraire, c'était le truc insurmontable. Ma bête noire. Moi, je rêvais d'une école où la musique ait toute sa place. Parce qu'à travers, c'est toutes ces sensations qui traversent mon corps et mon esprit, après qui se matérialisent en pensée. Musique et philo, voilà ce qui m'aurait permis d'apprendre et retenir. Décliner l'histoire, les maths, le français, par ce biais. Voilà qui ont retenu toute mon attention. Mais ils n'en étaient rien. Je devais rester assis, immobile dans mon corps, immobile dans ma pensée, à lutter contre ces lettres qui se baladaient partout sur mes manuels. J'avais tant à dire, tant à explorer, tant à partager. Au lieu de ça, je butais. Aujourd'hui, je peux le dire, le vivre, tout en moi reprend vie. Pourvu que ça change pour les enfants à venir. Pourvu qu'un jour je puisse être entendu, pour que ce jour-là ça fasse écho, pour que je ne sois pas seule. C'est bien connu, ensemble on va plus loin.
C'est quand même assez puissant.
Ouais, alors Je précise une chose, c'est que pour chaque enfant, en fait, j'avais fait un petit questionnaire, pour tout le monde le même, il y avait 6 questions de mémoire. Et en fonction de leurs réponses, j'ai mis en mots, et de ce que je connais d'eux et de ce que j'avais pu observer pendant plusieurs mois, j'ai mis en mots, voilà, et je les ai enregistrés. Voilà. Je vais vous en faire écouter un deuxième, parce que on est dans l'inclusivité, hein, mais donc effectivement, la deuxième, en fait, est pas 10, fait partie du groupe aussi. Et elle a aussi des revendications sur l'école. Alors, l'école ressort beaucoup, hein, c'est évident, c'est un peu leur vie, hein,
Eh
c'est
oui.
toute leur vie, tout leur quotidien. Donc voilà, je vous laisse écouter.
Mettre en scène des instants de vie,
Ah, c'est le
de la
metteur en
reprise
scène.
d'œuvre classique à l'écriture de texte, peu importe, tant qu'il y a du sens. Donner sens, dénoncer, démontrer, libérer la parole et les actes. L'acte théâtral est pour moi un moyen de gagner ma liberté et de l'offrir, que ce soit aux comédiens ou aux spectateurs. Donner forme à la pensée, la rendre visible et compréhensible, amener le plus grand nombre à se poser des questions, et pourquoi pas à remettre en question. M'exprimer, sortir de moi toutes ces choses que j'observe et qui me mettent hors de moi, et du coup, revenir en moi, libéré, libre. La liberté est une conception qui m'a beaucoup questionnée. Toute ma scolarité, j'ai eu le sentiment d'être enfermée, privée de liberté. Entrer à l'école à 8h, en ressortir à 17h, enchaîner avec les devoirs, le repas, aller au lit et recommencer chaque jour. Compter les jours jusqu'aux prochaines vacances. Avoir envie d'hurler. J'adorais le piano, mais je manquais de temps. J'adorais le flamenco, mais je manquais de temps. Trop de cadres. De telle heure, maths, puis histoire géo, puis français, physique, techno, etc. Puis une fois par semaine, de telle heure, piano, puis flamenco, puis théâtre. Ou comment tuer dans l'œuf toute forme de créativité, remplir les espaces coûte que coûte. Pas le temps de rêver, pas le temps d'imaginer, pas le temps de se passionner, pas le temps de créer. Étouffer, être étouffé, finir par être déscolarisé, retrouver ma liberté, ma joie de vivre, mes personnes avec qui les partager. Alors reprendre le chemin de l'école, serrer les dents, prendre mon mal en patience, dans l'espoir qu'adulte je serai libre, ne pas profiter de mon enfance, attendre que ces interminables années s'écoulent, tout comme les jours qui me séparaient des prochaines vacances. L'espoir fait vivre, ça c'est certain.
Bon, désolé, ça plombe peut-être un peu l'ambiance.
Tu rappelles tellement souvenirs.
Mais c'est ça, le pire c'est ça, c'est qu'en plus on s'y reconnaît.
Mais ouais.
C'est terrible. Que faire? Bon, voilà.
Mais
Donc,
quand
du coup, moi, mon rôle, c'est de donner à entendre après.
Alors moi, j'ai envie de revenir sur la conclusion du premier, où il pose finalement pas mal de questions. Je veux dire, ouais, qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin? Parce qu'il parle d'aller plus loin, il s'arrête là-dessus pour aller plus loin. J'ai envie de vous le poser, puis après, peut-être de passer un échange avec tout le monde, quoi. Mais qu'est-ce qui manque finalement?
On ne peut pas tout adapter, hein, je pense. Lui, il voudrait musique et philo et toutes les matières
Alors, je parlais pas forcément de son
déclinées
point
sur
de vue
ça. Ah,
à
d'accord.
lui, même
Mais
s'il
parce
a
que,
raison.
pour en revenir tout à l'heure, effectivement, on ne peut pas tout. On ne peut pas faire du cas par cas. Mais voilà, des petites choses en tout cas à prendre en compte. Et je pense que leur emploi du temps, notamment, et la façon dont les journées sont déclinées, c'est un peu compliqué pour beaucoup. Ils sont quand même assez nombreux à soit s'ennuyer, soit. Voilà. Alors, ils ne le disent pas à tous, ou ils n'ont pas l'espace pour le dire, mais en tout cas, c'est quand même une généralité aussi. Et je pense que ce n'est pas pour rien si on peut se. Pardon,
Non,
je ne
mais.
réponds peut-être pas à la question, mais c'est pas pour rien si on se reconnaît, en tout cas, dans leur dire, dans leur ressenti.
Mais vous dites, on ne peut
Une
pas faire du cas
objection.
par cas. On ne peut pas, en effet, par exemple, dans une classe où on a 30 élèves, on ne peut pas personnaliser chaque heure et être individualisé sur 30 situations. Mais il y a quelque chose de fondamental, une fois de plus, c'est culturellement. En tant qu'enseignant, par exemple, mais c'est le cas pour tout ce qu'on fait au quotidien. Quand je commence à faire quelque chose, est-ce que je suis dans l'idée, je déploie, je déroule, et c'est aux autres de s'adapter à ce que je suis en train de dire, ou est-ce que j'ai le réflexe de penser accessibilité? Ce qui ne veut pas dire qu'on l'est nécessairement. Enfin, normalement, là, si on était vraiment accessible, si j'étais vraiment accessible et inclusif, j'aurais dû demander, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin que je traduise en facile à lire, à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une traduction en langue des signes française? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont, voilà, des besoins? J'aurais dû faire tout ce travail. c'est pas toujours possible, etc. Par contre, le fait d'être attentif et ouvert et de se dire je suis prêt à adapter ce que je suis en train de dire pour essayer de le rendre le plus accessible, c'est cet état d'esprit-là qui est fantastique et qui est fondamental et qui fait que vous êtes dans des situations de pionnière parce que ça n'est pas encore l'élément répandu. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut être inclusif, mais pour se rendre compte de ce que ça implique vraiment derrière, je pense qu'on n'en a pas encore conscience. Et c'est là où c'est intéressant que tous, on porte cet élément-là, pas dans une logique de résultat et de se dire, voilà, est-ce qu'on est assez inclusif ou pas, est-ce qu'on est... C'est bien de se le poser, à des moments, il faut s'évaluer, il faut le faire, mais au quotidien, c'est pas ça. C'est est-ce que j'ai le réflexe de penser d'emblée la diversité des situations et de vouloir adapter ce que je fais pour que ce soit le plus accessible aux autres. C'est vraiment cet élément-là. Et donc, voilà. Le droit existe, mais il faut aller plus loin. Et on peut toujours dire les moyens, c'est une réalité. 30 élèves, s'il y a 6 élèves en situation de handicap, c'est... Mais il n'empêche qu'il y a ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est d'abord que je fasse ce qui dépend de moi, si je veux vraiment être inclusif ou pas. Et après, bien sûr, il y a des limites, il y a des choses extérieures qui font que... et c'est là où je pense qu'il faut distinguer ce que je veux et ce que je peux faire concrètement, les résultats que j'ai. Et l'élément, c'est bien de commencer, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment être accessible et inclusif? Et ça, c'est un rapport de soi par rapport à soi-même.
Il y a tout un travail de sensibilisation à faire aussi.
Voilà, c'est ce que j'allais en venir là. Le souci, quelque part, c'est que les enseignants manquent peut-être un peu d'informations, voire de formation, carrément. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux. C'est-à-dire que même les troubles 10, beaucoup ne savent toujours pas exactement ce que c'est. Il y a encore des mots qui sont extrêmement blessants. Peut mieux faire. T'es un peu fainéant. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est des enfants qui travaillent 10 fois plus que les autres. Qui s'adaptent de toute leur force, qui sont épuisés. Franchement, pour les devoirs, ils travaillent jusqu'à pas d'heure le soir. Enfin. Et il y a encore des enseignants qui ont des mots malheureux. Et c'est tout le travail aussi que je fais avec Joël Lérac de l'association Artivity. En début d'année, on fait le tour des écoles pour informer sur... donc moi sur les troubles 10, celui sur le handicap, les autres handicaps. Donc on fait ça pour les enfants, pour leur expliquer un petit peu pourquoi la différence du copain, pour éviter tout ce qui est harcèlement, parce qu'il y a ça aussi... Bref, et finalement, on se rend compte que les enseignants sont tout aussi intéressés. Et du coup, même eux, ils posent des questions comme les enfants. Et peut-être qu'on pourrait rajouter des intervenants comme ça qui viennent en début d'année juste pour expliquer, même une heure. Mais ça fait vraiment... le terrain, à un moment donné, c'est super important d'être sur place. Quoi.
Développer l'empathie aussi, parce que moi, l'impression que ça me donne, c'est tant qu'on ne peut pas... se sentir à la place de l'autre. On a en commun d'être humain, tous. La société manque parfois d'empathie vis-à-vis de personnes. Tout à l'heure, vous avez dit les personnes qui ont un accident, qui sont blessées de guerre, etc., qui deviennent handicapées, on dit « Oh, les pauvres !» ils ne l'ont pas fait exprès, entre guillemets, je ne sais pas si c'était ce qu'on a pensé.
C'est pas leur faute.
Alors qu'on sent un grand fossé, une grande différence avec les personnes qui sont handicapées de naissance, mais peut-être simplement aussi, peut-être qu'on manque d'empathie et se dire, en fait, c'est un être humain différent, il peut faire de la danse, il peut faire du théâtre différemment de la majorité, mais se dire, je me mets à la place de l'autre. Là j'ai un peu de mal à le comprendre, donc je vais prendre un petit peu plus de temps parce que l'élocution n'est pas très rapide. Peut-être qu'aussi on ne se met pas beaucoup à la place.
Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi, nous dans notre jeunesse, si tu veux, le handicap il existait pas.
C'était caché.
Parce qu'il était caché. Oui. Il y a plein de gens, c'est un étranger. C'est quelqu'un qui est étranger. Et aller vers l'étranger et tout ça, c'est compliqué aussi.
Il y a de la peur aussi. En fait, pour avoir cette empathie, il faut le vivre ensemble. Et il faut le vivre ensemble régulier, fréquent, pour du coup enlever certaines appréhensions, certaines gênes aussi. Se dire, mince, du coup, je ne vais pas réussir à le comprendre, je vais stresser, donc en fait, je ne vais pas du tout lui parler. Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fait, il y a toujours quelqu'un pour traduire, ou qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, parce que
est-ce que je dois l'aider là, ou est-ce qu'elle le prend,
comment elles arrivent à comprendre en fait, parce que là les danseuses de 16 ans qui arrivent à comprendre la personne qui a du mal à parler, c'est parce que en fait elles ont passé du temps avec eux, et moi je trouve que c'est dommage parce que il y a un manque de visibilité et des initiatives qui sont, mais rien qu'aussi, et encore on a encore du travail à faire au jour d'aujourd'hui. Moi je sais que les CAT, les ESAT, les institutions spécialisées, souvent elles sont pas au centre-ville, quoi. Et puis je vois rarement une personne trisomique me servir le pain ou être à la caisse, en fait. Donc l'interaction aussi. Et je sais qu'on en avait parlé, j'avais fait un projet de coéducation avec des enfants en situation de handicap et des enfants, entre guillemets, pas en situation de handicap dans des écoles. Et donc chacun allait visiter l'autre dans l'école, dans les écoles respectives. Et en fait, au fur et à mesure, parce que les enfants n'ont pas de filtre, mais pourquoi ton bras il marche pas? Ok, mais tu peux jouer à ça. Bon, allez, viens, on s'en fiche de ton bras, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Et puis, du coup, il y avait presque une surprotection des enfants à la récréation. C'est les enfants de l'IME. Certes, du coup, de pas enlever le handicap. Oui, alors lui, du coup, pour jouer au ballon, il faudra que tu fasses attention à ça. Mais hop, vas-y, on joue au ballon. Et ça, il y a eu... C'était possible parce qu'ils ont partagé des moments ensemble. Ils ont enlevé leur peur. Ils ont partagé soit à travers le théâtre, à travers la danse, à travers n'importe quoi. Et ça a été régulier. Et ça a été fréquent pour que ça soit plus une peur, en fait. Et qu'on se dise, d'être malentendant, et on va apprendre à comment...
ça donne c'est de la question que ça me pose, c'est parce que je sais qu'après, il y a une demoiselle qui voulait intervenir aussi. Mais si vous me permettez juste... Il y a d'une part le mot pionnier, j'ai pas posé par hasard parce qu'effectivement, ça fait la différence. Peu importe le terme, mais il y a d'un côté, on va dire à la base, des gens comme vous, trop peu nombreux, je pense, mais qui font la démonstration que ouais, c'est faisable, c'est possible. Et puis, est-ce qu'on n'a pas, alors peut-être Pierre, mais vous aussi, on n'a jamais autant parlé d'inclusion que ces derniers temps, quoi, finalement, c'est un terme partout. Avec le phénomène, j'ai une conception personnelle, j'appelle les victoires de papier, la loi consacre un certain nombre de choses. Je sais pas, le racisme, c'est illégal, ok, la loi le dit, mais n'empêche que des gens racistes, il y en a encore. Donc, j'appelle ça les victoires de papier. Les droits, sur la question du droit des femmes, on peut en trouver beaucoup, etc., etc. Donc, on a vu cette progression du regard de la société d'une part, et puis des différents textes de loi structurants de 75 à 2005. Et est-ce qu'on n'est pas actuellement en train de parler d'inclusion? Sans vouloir changer de modèle, puisque dans tous les exemples que vous avez pris de part et d'autre, il y a la question de l'éducation. Et je sais qu'avec Emmanuel, quand on avait discuté, vous aviez un regard un peu particulier là-dessus.
Sur l'éducation.
D'un côté, on voit que c'est possible. On dit que ça serait super. Et puis, finalement, on ne se donne pas les moyens de le mettre en place parce qu'on ne veut pas changer le modèle. Et on reste dans des classes à 30 élèves et où, effectivement, si le gamin il n'intègre pas... telle ou telle méthode d'enseignement, finalement, même si je pense quand même que le monde a un peu changé là-dessus, mais tant pis, il va rester un peu sur le bord de la route, quoi. Est-ce que c'est pas ça, là où il y a vraiment un énorme travail à faire
Alors, c'est la grande question. Comment on transforme un modèle? Est-ce que on le fait par les moyens, les conditions? Il faut que les conditions soient installées pour que du coup on puisse... Le transformer, ou est-ce que c'est les batailles culturelles et la transformation du coup dans l'esprit? Moi je suis convaincu que il y a pratiquement tout ce qu'il faut dans le droit, et que même s'il y a des limites très fortes, à un moment donné, ce qu'il faut faire sauter comme verrou, c'est l'idée qu'un enseignant, je prends les enseignants, j'ai rien contre les enseignants, et c'est partout dans toutes les dimensions de la vie.
Vous en êtes un vous-même.
Du quotidien, voilà, donc il n'y a pas. Mais pareil dans la sphère professionnelle, dans son voisinage, de partir du principe que sa place, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Et ça, c'est le plus essentiel. Parce qu'à partir du moment où on a enlevé ça, on est dans une logique où là, on se confronte vraiment à la recherche de solutions. Et bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que si on n'est pas formé, bien sûr qu'il n'y a pas de message, bien sûr que bah, c'est beaucoup plus compliqué, ça c'est sûr. Mais on est dans une dynamique, dans quelque chose qui peut évoluer et qui peut transformer véritablement les choses. Parce que le cadre, le cadre qu'il faudrait faire sauter, c'est vraiment si on disait chaque élève doit aller dans une école spécialisée. Là, c'est sûr que jamais ça pourra évoluer, même avec une transformation culturelle. Enfin, ça prendra des siècles et des siècles avant que ça évolue. Là, le cadre a changé sur l'idée, voilà, vraiment le droit commun, c'est l'école de son quartier. Donc, maintenant, c'est comment nous, on s'en empare tous pour le faire évoluer. Et la question des moyens, c'est pas que elle est cruciale, mais elle doit pas être l'élément préalable. Sinon, on butera toujours sur comment on fait pour arriver. Là, on veut monter quelque chose. Si on se dit d'abord, il faut qu'il y ait la bonne sono, la bonne image, etc., pour qu'on commence à discuter, c'est dommage. Pourquoi? Enfin, bien sûr que c'est mieux si c'est bien diffuser le film, si on a tout ce qu'il faut, et merci d'avoir tout organisé. Mais le plus essentiel, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on dit. Et ça, à la limite, on aurait pu se réunir dehors et commencer à le faire. Et voilà. Et après, se rendre compte que finalement, c'est peut-être intéressant, que ça intéresse d'autres personnes. Et à ce moment-là, on commence à structurer. Enfin, voilà. C'est un exemple.
C'est le mode de l'effort de chacun.
Tout à fait.
Parce que là, je veux dire, je vais pas vomir sur les enseignants, mais parfois, je trouve que, enfin, moi, dans mon vécu, hein, j'ai eu affaire à des enseignants qui étaient un peu sectaires, quoi. Qui me cataloguait, enfin, ainsi de suite. J'étais scolarisé de seconde en terminale, mais il y a longtemps de cela, n'est-ce pas? Dans une école privée. On n'a pas demandé au prof si c'était d'accord, pas d'accord, pour accepter. Et voilà, mais ça s'est bien passé, j'ai de bons souvenirs de ces profs-là. En revanche, à l'université, ça n'a pas été toujours aussi simple.
Et oui, parce qu'il y avait des représentations et une certaine culture qui faisait qu'on considérait que c'était. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi du côté de la personne qui exprime un tel propos, pourquoi elle en arrive à cette conclusion-là. Il y a quelque chose aussi de son côté, cette personne aussi est quelque part en situation de handicap, oui, c'est-à-dire qu'elle est, son interaction avec la société, elle n'est pas en phase avec son environnement.
Oui,
et donc, comment on fait pour tenir compte de... Elle doit avoir un besoin de sécurité, de réassurance, de quelque chose. Comment on fait pour le travailler aussi? Et c'est là où c'est réciproque et c'est intéressant. Du coup.
Une petite anecdote, j'aurais vite fait. Hein. J'ai rencontré, il y a de cela fort longtemps, le maire de Toulouse, dans une réunion. Il saluait tout le monde et moi, il me disait rien. Cherchait l'erreur. Et je me suis inquiété, j'ai dit, mais peut-être que pense-t-il que l'handicap c'est contagieux, je sais pas moi.
Comme au 17e siècle.
Voilà. Donc je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas une volonté vraiment d'aller vers les autres, un peu de chacun. Voilà.
Tout à fait, et réciproquement.
Et réciproquement.
Dans cette idée justement d'interaction qui est qu'on doit tous faire des efforts pour rentrer dans la norme. Et tout le monde doit faire des efforts pour tenir compte des capacités de chacun, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est aussi les familles, les élèves qui doivent tenir compte des limitations de capacité des enseignants, qui ne peuvent pas tout faire aussi. C'est vraiment dans une logique, c'est pas dans une logique d'exigence. Enfin.
Alors,
mais ce que vous dites tout à fait, hein.
J'aimerais qu'on puisse revenir tout à l'heure sur la question de l'empathie que soulevait Françoise tout à l'heure. Mais je commence à être très très mal à l'aise, puisqu'en face de moi, il y a une jeune personne qui nous a fait signe tout à l'heure qu'elle voulait intervenir. Bon, allez-y.
Je sais que sur le rectorat de Toulouse, il y a un service qui s'appelle l'école inclusive. Qu'est-ce que c'est, finalement? Parce que quand j'ai cherché hein, sur Internet, j'ai cherché le service, j'ai rien trouvé. J'ai un numéro de téléphone, et j'ai personne qui y travaille dedans, mais c'est tout.
C'est le SDEI, non, le service départemental de l'école inclusive.
C'est ça.
Alors ça, c'est le fonctionnement, la nouvelle organisation au niveau de l'éducation nationale. Donc moi, je ne fais pas partie du coup de cette administration-là, donc je ne vais pas... Non, mais je ne voudrais pas dire de bêtises par rapport à ça. Mais de ce que j'en connais, en fait, c'est justement pour... au niveau de l'administration d'État, on est dans cette transformation profonde entre un sommet au niveau des textes qui veut véritablement de... une vraie école inclusive, je pense que c'est vraiment le souhait. Il y a des limites, il y a des choses qu'on peut discuter, critiquer, etc. J'en conviens tout à fait. Mais voilà. Et une réalité sur le terrain qui est un mélange de, à la fois des personnes qui, j'ai l'habitude de dire, il y a je veux pas, je peux pas, il y a je veux et je peux pas, et puis il y a je veux et je peux. Et on est en train de basculer petit à petit dans une culture de terrain qui est du je veux pas, je peux pas, en disant voilà, la place de l'enfant, elle n'est pas ici dans ma classe, elle doit être ailleurs, elle doit être dans un établissement médico-social, à de plus en plus je veux bien que l'élève ait sa place, par contre je n'y arrive pas pour un certain nombre de raisons, manque de formation, manque de... Et donc cette service départemental d'école inclusive, le but c'est de pouvoir impulser cette dynamique inclusive à la fois dans la culture enseignante et à la fois au niveau de toute organisation. Alors là, c'est un peu technique, c'est les PIAL dans les établissements. C'est-à-dire l'idée qu'on n'a plus des auxiliaires de vie scolaire, des AESH, qui sont attribués à une personne en tant que telle, mais qui sont mutualisés au niveau de l'établissement. Et donc là, c'est un peu quitte ou double. C'est soit c'est très bien parce que c'est beaucoup plus adapté aux besoins à un moment donné des élèves, et ça peut être très positif, du coup, la logique de mutualisation pour répondre à davantage de besoins avec les mêmes effectifs et de manière encore plus adaptée. Soit ça peut être une optimisation par le bas, et auquel cas, là, c'est négatif. Et
il y en a moins, en personnel. Il y en a moins.
Il n'y en a pas moins de personnel. En fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de... C'est le rapport entre élèves reconnus en situation de handicap. En 5 ans, c'est passé de 300 000 élèves à 400 000 élèves en situation de handicap. Mais le nombre d'AESH a augmenté, mais n'a pas augmenté à proportion de l'augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap. C'est pour ça que je vous réponds, je suis quasiment sûr que ça n'a pas diminué. Par contre, la proportion fait que, en effet, il y a une espèce de saturation.
Oui, il y a de beaucoup, c'est saturé. Enfin, ça peut être vite. Il y a de ça aussi, de plus en plus. Il y a plus d'handicapés, de personnes en situation de handicap sur les institutions spécialisées. C'est beaucoup bloqué maintenant. Enfin, il y a de moins en moins de place. Et c'est beaucoup plus difficile aussi d'avoir des places pour les personnes.
C'est peut-être là où on a la question des moyens, on a un petit peu évoqué avec Emmanuel tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être intéressant de revenir sur ça.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Pour moi, la question des moyens, c'est celle déjà de la priorité que met l'État, quel que soit le président ou la présidente, ou comment l'État prend en considération la question du handicap, quel moyen on est. Puisqu'effectivement, les activités qui sont menées par Emmanuel, par Mamé, et puis il y a quand même quelques autres, heureusement vous n'êtes pas toutes seules, vous n'êtes pas si nombreux, on l'a vu. D'une part, en termes de financement, si vous trouvez, parce que ça c'est important quand même, que intéressant, vous expliquiez comment vous fonctionnez, vous êtes des associations, vous êtes peut-être un peu subventionnés, mais pas beaucoup. Voilà. Et donc, à un moment donné, on ne fait pas grand-chose pour permettre aux personnes en situation de handicap une accession à l'emploi, au loisir, au sport, à la culture, donc à la danse, au théâtre, enfin, tout ce qu'on veut. Je sais pas, moi, il me semble que justement, il manque quand même un élan fort sur ces questions-là. Comment vous le ressentez-vous dans vos pratiques? Et puis, peut-être Pierre, sur un plan plus institutionnel, mais...
Bah, ça c'est sûr que comme toute petite association, il faut galérer toujours pour, pardon, je suis un peu trivial, mais pour demander de l'argent. Après moi, ça, j'ai apprécié finalement réussir sans trop d'aide, sans subvention, mais c'est vrai, je suis d'accord que l'intention, elle est hyper importante, mais ça aiderait... que ça soit facilité, en fait, parce qu'effectivement, rien que sur Toulouse, on est 3-4, en fait, à proposer, en tout cas dans la danse adaptée, au final. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de visibilité dessus, et puis de reconnaissance, en fait, parce qu'à travers, justement, les financements, il y a aussi, du coup, une reconnaissance, et puis il y a plus de moyens pour rendre les choses plus visibles, et... Donc c'est quand même c'est quand même très très lié, même au niveau aussi de la qualité d'un spectacle. Il faut bien que avoir des moyens pour pouvoir avoir une qualité, et surtout du coup avec des fois des besoins qui peuvent être assez élevés. Moi en tout cas de mon point de vue, c'est dommage que ça soit aussi trié sur le volet, quoi, les financements, les demandes de subventions. Mais je ne sais pas s'il y a une solution à ça. Enfin, je trouve que le monde associatif, il peine à... Je trouve qu'il a un manque de reconnaissance incroyable en comparaison à l'intensité de travail qu'elle produit pour la société, mais je parle vraiment, mais je pense que c'est qu'il y a un petit côté, je sais pas, peut-être un petit côté artiste ou de travailler avec l'humain, ça fait que c'est moins, mais on a moins valorisé, ou on a l'impression peut-être qu'on a cette tendance à s'amuser ou quoi, mais ça demande du coup tellement d'énergie en fait pour rester. Parce que moi, j'étais toute seule, ça prenait en fait de tout faire entre l'admin, les devis, les machins, et puis du coup les interventions. Rester artiste, rester avec des rêves dans la tête, rester dans la relation, dans le lien, parce que moi, ça c'est hyper important, c'est le plus important. C'est qu'une excuse en fait, l'art. C'est, une société, elle vit à travers le lien qu'elle a avec les autres, quoi. Donc, et que ce lien, il est ultra précieux et qu'il doit être inconditionnel au final.
Parce que je voulais qu'on puisse conclure, on va laisser Emmanuel bien sûr donner son avis et peut-être Pierre faire un mot de la fin, mais sur cette question-là, puisque il y a quand même bien la question du droit qui se pose, Pierre l'a dit, le droit il est quasi suffisant de son point de vue, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est bien droit. Si je réagissais sur empathie, bien sûr qu'il en faut, mais je dirais que l'empathie, ça m'appartient, ça t'appartient, ça appartient à chacun de nous. La question du droit, c'est une question de revendication. Des personnes, me semble-t-il, en situation de handicap, c'est pas moi l'intervenant, mais c'est un droit et c'est à nous tous de le porter, de le revendiquer. C'est pas normal qu'il faille en passer par l'initiative privée quelque part pour permettre à ces personnes d'avoir accès à la culture et à d'autres choses. Alors, c'est bien que l'initiative privée existe, que la création, que tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus d'associations, il faut juste un État. C'est pas ça. Simplement que l'État, voilà, je suis pas. L'État, me semble-t-il, ne prend pas suffisamment en charge ces questions-là. C'est pas rentré dans les mœurs, c'est peut-être parce qu'on est encore dans un système de pensée binaire, Pierre parlait capable, incapable, j'ai envie de dire des fois normal, anormal, parce que c'est pas aussi ça, sur le fait que, comme l'a souligné l'une de vous tout à l'heure, je sais pas, les IME, enfin les instituts spécialisés, mais ils sont à la périphérie, enfin voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc voilà, Emmanuel, peut-être pour conclure là-dessus, si vous souhaitez compléter.
Oui, non, moi je rejoins complètement Mamie, c'est très difficile d'en vivre. Moi, honnêtement, j'avais pris le parti de laisser tomber les demandes de subvention parce que ça me prend du temps, de l'énergie, et je préfère pas me payer à la limite que... D'ailleurs, je ne me paye toujours pas. Ça viendra, j'espère. Parce que je fais un travail qui est spécifique. Alors oui, ça peut paraître d'un regard extérieur, j'ai deux ateliers, deux groupes, deux spectacles, mais en réalité c'est beaucoup de réflexion à la maison, beaucoup de travail d'écriture, parce que moi par contre j'ai besoin d'écrire les spectacles pour eux, et je prends pas des œuvres déjà écrites, et ça... enfin voilà, il y a tout ce temps de travail en fait à la maison qui est du travail invisible, comme le handicap d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je sais pas. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que là, j'ai quelqu'un qui m'aide maintenant sur les demandes de sub. Donc on commence à avoir un petit peu d'argent, mais c'est vraiment...
C'est ça prend tellement de temps.
Ce salarié, ou alors ce salarié a tout juste un mi-temps, et encore. Donc oui, il y a un gros manque de valorisation. Alors on tient bon, hein, on est... Je pense qu'on a des points communs, hein, tous ces gens qui travaillent comme ce qu'on fait, parce qu'on est quand même super nombreux. Peut-être pas dans nos technicités, mais on est quand même très nombreux. Hein. Les associations, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est... je pense qu'on tient bon parce qu'on travaille avec le cœur avant tout, avec l'humain. Et c'est voilà. Enfin, moi, c'est le sourire de mes petits à la fin des spectacles, c'est de les voir évoluer. Les premiers, ça fait 5 ans que je les ai, quand je vois tout ce que ça a pu leur apporter, ça me nourrit, quoi. Alors, ça me fait pas vivre.
Ouais, je crois qu'on pouvait pas se quitter sans souligner, puisque Mourad et moi travaillons du lundi au dimanche soir avec des acteurs associatifs. Donc ce discours, j'entends très régulièrement. J'ai des gens que je connais bien qui me disent qu'ils passent près de 30% de leur temps à chercher des subventions pour continuer à vivre, à exister, alors qu'ils portent des projets fabuleux, et que ces 30% de leur temps, serait peut-être bien qu'ils le consacrent plutôt à leur art ou à leur spécialité, enfin à ce qu'ils font très bien, plutôt qu'à chercher des subsides. Donc il y a quand même un souci. Quand j'écoutais Emmanuel, je prenais le référentiel de subvention de l'État sur la subvention culturelle. si Emmanuel fait un dossier de subvention au ministère de la Culture, il va être refusé parce qu'on va lui dire qu'il faut qu'elle demande des subventions au titre des actions sociales. Il y a un problème de subvention à tiroir en ça en France, c'est un des chevaux de bataille. Alors je regarde Madame l'adjointe à la culture, mais enfin c'est valable, c'est-à-dire que je connais par exemple des associations qui travaillent dans les quartiers, qui font du travail hyper intéressant avec les métiers du cinéma auprès de jeunes, ben, en situation un peu voilà critique, etc. Et on leur dit non, pas de subvention culturelle, vous c'est du social. Parfois, c'est juste parce qu'il y a l'adresse. Donc, vous voyez, là encore, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on n'était pas là pour ça. Mais effectivement, je pense quand même que ce mode de conclusion, pour moi, il est important, c'est de saluer le travail et l'implication que vous avez sur ces questions-là. Parce que c'est quand même des actions où ça repose presque sur le bénévolat. C'est difficile d'en vivre. Et voilà. Donc. Peut-être Pierre, je ne sais pas, qu'est-ce qui manque justement pour que l'État s'en empare un peu plus, que ça devienne vraiment une politique intégrée, quasi systématique.
Alors.
Je ne demande pas la solution.
Non, mais c'est.
Si, si, nous on la veut ce soir.
Ben, on veut bien,
mais tiens, pas tant que. Ouais. Eh ben, je suis parti.
Désolé pour le week-end. Vous, mais...
Non, mais. La question, elle est fondamentalement politique. C'est qu'est-ce qu'on valorise, du coup, pourquoi on valorise très fortement les transactions financières, alors que les transactions humaines, on considère que c'est normal, et que c'est naturel, et que c'est bénévole. C'est des choix de société, hein. Là, pour le coup, c'est véritablement le sens premier, du coup, de la politique. Et si on va plus loin, comment ça se fait qu'on ait des vies où on passe autant de temps sur la vie économique et aussi peu de temps sur la vie politique? On est en fait plus des travailleurs que des citoyens. On est quasiment 98% des travailleurs, ou même dans le bénévolat, ou même on est dans une activité, voilà. Et alors qu'il y a tout un enjeu, du coup, aussi de la vie politique. Et quand on est dans le bénévolat, on est en général plutôt dans les deux. Et donc voilà. Et ça, c'est des choix de société. Là, il y a vraiment des choses. Et le champ, je crois, des possibles est véritablement ouvert, même si on est dans un contexte très compliqué avec des dilemmes pour le deuxième tour très très fort. Et là, le champ semble très très étroit. Il n'empêche qu'au-delà de ces éléments purement électoraux, immédiats et de court terme, il y a véritablement des choses à développer. Moi, je crois qu'il y a un élément clé, c'est, une fois de plus, le côté éducatif et l'école. Combien de temps encore on va continuer dans une logique hyper individualiste à l'école? C'est-à-dire que l'école, on a l'impression que on a une classe de 30, mais en fait, on a 30 individus et chacun est là pour sa pomme à cavaler, et il faut qu'il soit dans une logique de performance, qu'il atteigne le meilleur niveau possible. Mais à un moment donné, quand on est dans la vie professionnelle ou dans la vie d'adulte, il y a toute une partie de nos compétences et de nos qualités, c'est de la relation à l'autre. Oui, le manager, c'est avant tout un animateur et un relation. Et ça, jamais du coup on l'exploite. Alors que le fait même d'avoir une école beaucoup plus collective, bah, permettrait de créer des esprits beaucoup plus collectifs, première chose. Et deuxième chose, permettrait d'aider dès le départ dans des tas de situations, chacun à grandir de manière bien plus positive. Donc tout ça, c'est des choix en fait politiques. Donc ce qui est important, c'est qu'on en discute, qu'on en échange et qu'on arrive à s'accorder sur le fait qu'il y a des choses qui valent le coup d'être valorisées, d'autres moins, et c'est ça qui permettra à mon avis d'avancer. Ça prend du temps, ça c'est sûr, mais ça permet d'avancer de manière certaine et de voilà.
Alors,
ça donne envie de rebondir, excusez-moi, je sais qu'il faut arrêter là, mais juste par rapport à ça, effectivement, si on utilisait davantage le collectif avec les enfants là, à l'école, hein, déjà, on leur ferait moins mal, hein, entre eux, c'est-à-dire qu'on leur mettrait moins de pression et ça serait quand même beaucoup plus sympa pour eux et ils auraient peut-être plus envie de se lever le matin. C'est la première chose. La deuxième chose concernant les 10, hein, excusez-moi, je reviens dessus, mais c'est mon cheval de bataille, mais on se rendrait compte que les 10, en fait, pour arriver du point A au point B, ben, ils vont passer par un autre chemin qui va les amener à la solution. Et finalement, dans un travail d'équipe, c'est précieux parce que ils amènent un autre regard, un autre, voilà, bon, je veux juste... dire ça. Donc je pense que c'est nécessaire justement de changer peut-être cette façon de faire à l'école.
Parce qu'on est aussi très sur les compétences logico-mathématiques, verbo-langagières. C'est ces compétences-là qui sont celles à valoriser à l'école comme dans la société. Et du coup, toutes ces intelligences autres, créatives, émotionnelles, empathiques, même, enfin, de justement de voir, enfin, en faisant tout ce tour-là, parce que moi et ma fille est un peu comme ça, ben, en fait, ils ont vu plein de choses que les personnes qui sont allées en ligne droite n'ont pas vu, quoi. Et donc, les deux sont complémentaires au final.
Mais on passe notre temps à remplir des grilles d'évaluation. Enfin, les enseignants sont un peu submergés aussi hein, là-dessus. Hein. On leur demande d'évaluer sans arrêt leurs ouais. élèves. Enfin, pff, je me mets à leur place hein, des fois. Il y a de quoi craquer. Quoi. Ouais.
Ou pas pouvoir être super bien. Pour démontrer que, ou se convaincre que la diversité, c'est la richesse. Que la normalité n'existe pas.
Enfin, aujourd'hui, on en parle beaucoup.
Tous les domaines, donc on a essayé. Pardon ?
Aujourd'hui, on en parle beaucoup, donc c'est quand même une lueur d'espoir pour, voilà, donc pour les futures générations.
Et très modestement, le but de cette soirée, c'était aussi d'essayer d'échanger, de se donner quelques clés mutuellement. Je pense que, en tant que citoyen, on a aussi une responsabilité pour faire avancer ces choses. Donc, je vais, si vous voulez bien, conclure en remerciant Emmanuel, Nané, Pierre, pour tout le temps. Remercions la ville de Ramonville, la commune de Ramonville, et puis l'équipe de la médiathèque, mention spéciale à Françoise, qui, enfin, je sais qu'elle n'était pas toute seule, mais qui a fait beaucoup pour que cette soirée ait lieu. Le public n'a pas été très nombreux au rendez-vous, donc je remercie quand même chaleureusement ceux qui sont
venus. Mais restez jusqu'au bout.
Et on s'est dit juste avant que même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était pas grave et que ça ne nous empêcherait pas de recommencer. Donc,
Et puis on a servi la cause.
Comment ?
On a servi la cause.
Voilà, c'est ça. Donc, merci à vous. Bonne fin de soirée.
Merci. Merci Jean-Luc aussi. Merci
bientôt.
Même audio ? Une mémoire sonore ?